Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio de la Paix pour cette édition de la mi-journée. Un projet de loi de règlement 2022 en rapport avec la mobilisation et la gestion des ressources publiques a été soumis par le ministre des Finances et du Budget, Adam Koulibaly, hier jeudi. Nous l'aurons en début de ce journal pour plus de précisions. Et puis, la cérémonie de récompense des prix Ghislaine Dupont et Claude Verlonne s'est tenue hier à Abidjan. Mais avant, la présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, a été reçue en audience par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui a souligné la nécessité pour les populations d'être informées selon elle. Dans l'actualité hors de nos frontières, le Burkina Faso, pays voisin, a décidé de rapatrier 14 stagiaires militaires formés en Côte d'Ivoire. Et puis enfin, l'ONU devrait repenser la conduite de ses missions de maintien de la paix dans le monde, selon le professeur Guessant Kouadio, professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université de Cocody, qui est aujourd'hui l'invité de la rédaction et il répondra aux questions de Aoussi Potin. Gestion des ressources publiques, le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, était hier jeudi 2 novembre face à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. L'émissaire du gouvernement a soumis un projet de loi de règlement 2022 en rapport avec la mobilisation et la gestion des ressources publiques. Après l'adoption en commission de ce projet de loi, le ministre Adama Koulibaly a fait savoir que le budget 2022 s'est opéré dans un contexte assez particulier. Nous l'écoutons.
L'année 2022 a été une année extrêmement difficile parce que nous n'étions pas encore totalement sortis de la crise de la Covid. Nous avons eu la guerre en Ukraine, dont les conséquences se sont manifestées à travers des ruptures de chaînes d'approvisionnement, ce qui a impacté le coût de l'énergie, le coût de certaines denrées alimentaires, également un durcissement des coûts de financement sur le marché international. Donc c'est dans ce contexte difficile que le budget 2022 a été exécuté. Donc nous avons été amenés à opérer des ajustements, des aménagements au niveau du budget pour réduire, pour ne pas dire amoindrir, l'impact de ce qui était fait au niveau international sur les populations. Il vous souviendra que des mesures avaient été prises, notamment concernant le plafonnement des prix de certains produits alimentaires. Également, des subventions de l'État avaient été accordées aux meuniers pour faire en sorte que le prix de la baguette, du pain, puisse être maintenu dans des contextes qui soient enfin supportables par les populations. Nous avons également, en 2022, renoncé à des ressources fiscales importantes pour permettre que les prix ne soient pas rehaussés au niveau des pompes à essence. Donc ce sont autant de dépenses qui ont été effectuées. Nous avons également ajusté la projection de recettes sur l'année 2022. Donc ce sont tous ces aménagements qui ont été reflétés dans le projet de loi de règlement qui ont été donc adoptés, donnant qui touche donc à l'État.
Vous écoutez le ministre Adama Koulibaly, ministre des Finances et du Budget. Parlons de projet de transport urbain d'Abidjan, démarré le 10 août 2018, le quatrième pont d'Abidjan qui relie les communes de Yopougon, d'Adjamé et du Plateau, a été visité hier jeudi 2 novembre par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour se rendre compte de l'état d'avancement global des travaux à ce jour. Écoutons le Premier ministre Robert Begré-Mambé au terme de sa visite.
Le chantier du 4e pont d'Abidjan est un chantier voulu par le président de la République pour offrir aux Ivoiriens la possibilité de rejoindre leur lieu de travail et leur lieu de domicile dans les meilleures conditions de circulation. En l'état actuel des choses, quand on veut rallier Yopougon à Adjamé, on a près de 112 000 véhicules jour. Donc c'est l'un des trafics les plus lourds à Abidjan. Donc le président de la République a décidé d'offrir cet ouvrage aux Ivoiriens pour que la moitié de ces 112 000 véhicules jour soient transférés sur ce pont. C'est-à-dire que là où on avait des engorgements pour aller de Yopougon à Adjamé, on ne devrait plus avoir d'engorgement. C'est pourquoi nous sommes venus visiter ce chantier pour évaluer le délai au bout duquel on peut permettre aux Ivoiriens d'utiliser ces quatre ponts en attendant son inauguration. Alors, Le travail que nous avons constaté révèle que du premier pont, du carrefour du premier pont jusqu'à Tekoubé, au niveau de Sebroko, cette zone pourrait être utilisable dans les jours qui viennent, sous réserve que l'entreprise respecte les indications que nous leur avons faites de terminer les embranchements, sorties et accès. On leur a donné un délai, ils le savent. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est que la jonction du deuxième pont de Yopougon jusqu'à au premier pont de Yopougon pour aller vers le plateau soit faite le plus rapidement possible.
À l'instant, les propos de Robert Begré Mambé, rapportés par Jean-Claude Mabéa. Un atelier de réflexion sur l'industrie des véhicules de transport avec chauffeur VTC en Côte d'Ivoire s'est tenu à Abidjan. Et depuis plusieurs années, les rues d'Abidjan ont vu fleurir de nouveaux types de transport avec de nouveaux acteurs. Et il s'agissait de faire un bilan rétrospectif et prospectif. Les détails dans ce compte-rendu de Mata Touré.
L'impact des VTC désignant le triptyque véhicule transport chauffeur est indéniable en Côte d'Ivoire, autant en termes de choix qu'en termes de sécurité. 20 000 nouveaux chauffeurs de VTC sont venus gonfler les 25 000 traditionnels, et surtout avec des chauffeurs venant d'horizons diverses qui viennent renforcer la proposition de valeur.
J'ai une BAPU, j'ai une licence, et ça peut être un grand moyen de permettre à bon nombre de personnes d'avoir du boulot.
Il y a des éléments tout autour du business qui joue aussi, le carburant. Personne n'a prévu la crise ici, on est d'accord. Mais l'augmentation importante du coût du carburant vient jouer aussi sur les marges. Depuis peu, le gouvernement aussi a commencé à créer de la taxation sur cette activité qui n'existait pas du tout avant.
Aujourd'hui, on se dirige vers des plateformes qui réunissent plusieurs offres de services. Le boom de la digitalisation est passé par là. Il doit être réglementé, d'où cette réunion des acteurs du VTC en Côte d'Ivoire. Ben Souda est l'un d'entre eux. Il est en outre expert en communication digitale.
Il faut se faire accompagner par les acteurs du secteur pour écrire la réglementation. Il faut aussi adapter ces réglementations-là à nos réalités. On ne prend pas des réglementations d'ailleurs pour venir aujourd'hui les appliquer en Côte d'Ivoire.
Cet atelier a fait le bilan des trois dernières années en termes de gains et de perspectives pour les trois prochaines et devrait déboucher sur un document de stratégie, un livre blanc qui sera remis aux autorités.
Parlons de la 10e édition de la bourse Claude Verlon et Ghislaine Dupont à Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara a échangé hier jeudi 2 novembre avec la présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse. Le chef de l'État a exprimé sa joie d'accueillir son hôte et a salué l'important travail de couverture de l'actualité qu'accomplit ce groupe français dans le monde en général et en Afrique en particulier. Il a également regretté l'interruption de diffusion du groupe dans certains pays avant de souligner la nécessité pour les populations d'être informées. Marie-Christine Saragosse, qu'on écoute au sortir de cette audience.
On tenait à être ici parce que la première personne, le premier chef d'État qui m'a appelé le 2 novembre 2013, le jour de l'assassinat, c'était le président Alassane Ouattara. Et je venais de le quitter parce que il avait tenu à décorer Jean-Hélène à titre posthume à l'occasion des 10 ans de sa mort aussi. Et donc on était dans un contact douloureux. Et son engagement pour défendre la liberté des médias, leur professionnalisme, ça m'a frappé dès ce moment-là. Et je voulais que pour ce 10e anniversaire, on soit ici. Et bien sûr, il nous a reçus parce que il l'a dit lui-même à quel point les médias indépendants, professionnels, experts, vérifiés, c'est le rempart contre toutes les manipulations. Et c'est aussi donc la liberté des citoyens qui est en jeu, puisque un citoyen mal informé n'est pas un citoyen libre. Donc, c'était un moment assez intense et important pour moi et pour toute l'équipe.
Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale de France Média Monde. Éducation nationale à présent dans cette édition. Les meilleurs élèves filles de la carte scolaire de la région du Bunkani ont été récompensés au cours d'une journée dédiée aux filles de la région de Bouna en faveur de la célébration de la Journée internationale de la fille. L'objectif des initiateurs de cette manifestation est de contribuer à la lutte contre les grossesses en cours de scolarité, phénomène récurrent dans la région, mais également sensibiliser les parents au maintien de la jeune fille à l'école. Pour Radio de la Paix depuis Bouna, Jérôme Kouassi.
Cette initiative a été portée par Kambou Erigemi Magrance, réalisatrice des films, après son constat en tant que fille de la région.
Le nombre de grossesses en milieu scolaire se multiplie chaque année et il se pose un réel problème de maintien de la jeune fille à l'école dans la région du Bonkani.
Et ce constat n'est pas faux, confirment les chiffres avec Dr Kwasi Léopold, médecin chef du service de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes de Bouna, au cours de la conférence publique.
L'année dernière, nous avons enregistré pour le département de Bouna 53 cas de grossesse. Cette année scolaire 2023-2024 qui vient de commencer, nous avons notifié déjà 8 cas. Il y a des filles, lorsqu'elles tombent enceintes, elles fuient.
Toutes les majeures de promotion de la 6e à la classe terminale ont été honorées.
BPC régional du collège privé Christian Aurélie de Doropo, cible Assetou, elle a eu 258,10 sur 360.
Pour la porteuse du projet, la Journée internationale de la fille est un jour idéal pour s'adresser à elle, célébrer son mérite et son excellence pour la rendre plus déterminante. Kambou Erigemi Magrance.
Nous pensons que la célébration de la Journée internationale de la fille est un jour idéal pour rappeler aux filles de cette localité que l'école est la place idéale pour elles et qu'elles doivent changer les choses par l'excellence, le travail et la détermination à réaliser leurs rêves.
Kambou Erigemi Magrance mener de telles actions à chaque journée internationale de la jeune fille pour ainsi contribuer à la lutte contre les vulnérabilités et à son maintien à l'école. Jérôme Kwasi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Et puis les élèves non affectés de l'État en classe de 6e devraient retourner au CM2 après les congés de Toussaint, rapporte Dosso Moussa, le coordonnateur de la direction des études des stratégies de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et ce conformément à la nouvelle réforme initiée cette année par la même tutelle. L'information a été rendue publique récemment par le Suscité.
Depuis la rentrée de cette année 2023-2024, il nous a été rapporté qu'il serait plus possible pour les écoles privées de recruter en sixième les enfants qui n'ont pas eu l'entrée en sixième à le concours direct. Auparavant, ces enfants, on les prenait sur la base des 76,5 points. On appelait ça les sixièmes non affectés. Et depuis la rentrée, nous avons remarqué que ces onglets qui nous permettaient d'insérer ces enfants n'existent plus dans notre logiciel. Et une mission de la DSPS nous a appris que cette année, tous les enfants qui n'ont pas eu les 85 points, donc n'ont pas été orientés ou bien affectés à la sixième, devaient pouvoir reprendre la classe de CM2. Nous avons informé les établissements qui recrutaient déjà ces enfants qui n'ont pas eu l'entrée en sixième de 85 points, de libérer ces enfants pour qu'ils aillent reprendre la classe du CM2. Est-ce que le ministère a décidé?
C'était Dosso Moussa, coordonnateur à la direction des études des stratégies de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans l'actualité, hors de nos frontières, le Burkina Faso a décidé de rapatrier 14 stagiaires militaires en formation en Côte d'Ivoire, selon une note de l'état-major des armées burkinabées consultée hier jeudi par l'AFP. À ce message datant du 24 octobre est joint une liste nominative de 14 stagiaires burkinabés, tous des élèves scolarisés entre la classe de 6e et la terminale à l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville. Dernière articulation de ce journal, c'est l'invité de la rédaction. Et aujourd'hui, professeur Guessan Kouadio, il est professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Invité de la rédaction, jette un regard sur la gestion de l'ONU dans le maintien de la paix au Congo et au Mali à travers la MINUSCO et la MINUSMA. Pour rappel, le 20 septembre dernier, à la tribune des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, plaidait en faveur du retrait progressif de la MINUSCO en RDC, et ce à partir de décembre 2023. Un retrait à venir qui fait suite également au départ, lui forcé, des Nations Unies du Mali avec la fermeture de la MINUSMA. Les deux scénarios qui devraient amener à repenser la conduite des missions onusiennes de maintien de la paix dans le monde, selon professeur Guessan Kouadio, interrogé par Aoussi Potin.
Professeur Guessan, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
L'on assistait il y a de cela quelques temps au départ forcé de la MINUSPA, la mission donc des Nations Unies au Mali. L'on assiste aussi actuellement à plutôt un départ, on va dire, arrangé entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies, donc fermeture prochaine de la MONUSCO. Quelle lecture vous en faites en tant que spécialiste des relations internationales ?
Les missions des Nations Unies de ce type sont des opérations de maintien de la paix, c'est-à-dire des forces onusiennes envoyées sur des théâtres de guerre ou de conflits élevés qui s'interposent en principe entre les deux belligérants pour faire en sorte que les deux adversaires ne puissent pas s'affronter directement le temps que la négociation puisse naître, comme on l'a vu ici dans le cas de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Alors, pour le cas du Mali, il s'est agi non seulement de s'interposer, mais d'appuyer l'armée malienne à faire face à la rébellion du Nord. De l'autre côté, en RDC, il s'est agi aussi d'appuyer les forces de la RDC à faire face au mouvement rebelle, essentiellement du M23, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour le cas du Mali, il s'est trouvé que le Mali est le pays qui reçoit. Et en général, c'est à la demande du pays que les forces des Nations Unies se déploient. Et à la suite des incompréhensions, des malentendus, le gouvernement malien, certes anticonstitutionnel, a estimé, pour une raison pour une autre, que les forces onusiennes ne faisaient pas l'affaire des populations de l'État malien. Ainsi, le régime armé au pouvoir a donc exigé des Nations Unies que ces forces-là soient retirées. Il s'est agi aussi de la même chose au niveau de la RDC. Je rappelle que c'est depuis la chute du président Mobutu et la guerre civile qui s'en est suivie à partir de 1997, que les premières forces onusiennes, ou la période récente, ont été déployées en RDC, en particulier dans l'Est. Or, la population civile constate que depuis lors, que rien ne change. Si en RDC, c'est à la suite de négociations, je ne pense pas que ça ait été le cas pour le Mali avec le régime militaire.
Professeur Guessant Kouadio, sur ce point, l'on parle de la fermeture prochaine donc de la MONUSCO et je cite hein, « un retrait progressif, responsable et durable de la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, MONUSCO ». À l'opposé du côté de la MINUSPA, côté Mali, l'on assistait à un départ forcé.
Oui.
Alors, deux types de départs différents qui pourraient remettre fondamentalement en cause les raisons d'être de cette mission de paix des Nations Unies dans le monde, selon vous, ou pas?
Oui. Mais je dois préciser que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Mali et en RDC ne sont pas les premières par le passé. Il y a eu beaucoup d'autres opérations de cette nature. Mais on constate que toutes ces opérations ne sont pas toujours couronnées de succès, malheureusement. Alors donc, cela montre quelque part les limites des opérations de maintien de la paix. Pour le cas du Mali, comme je l'avais signalé plus haut, c'était de la responsabilité du gouvernement malien. Je dois aussi rappeler, comme je l'ai dit tantôt, que ces opérations de maintien de la paix sont déployées en accord avec le pays hôte. Mais dès l'instant où le régime en place, soit-il anticonstitutionnel, constate qu'il y a des débordements, des ratés, etc., eh bien, le régime en place est en droit d'exiger le retrait des forces onusiennes de son pays.
Avec donc ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe actuellement donc en RDC, il importe pour les Nations Unies de réfléchir, de repenser les opérations de maintien de la paix dans le monde?
Oui, absolument. Pour le cas de notre pays, vous avez vu que c'était assez mitigé. Vous savez que lorsque les Nations Unies ont été déployées, les partisans du camp gouvernemental et les autorités de l'époque avaient estimé que les forces onusiennes et le système des Nations Unies, en gros, avaient pris fait et cause pour la rébellion armée. Alors que de l'autre côté, on estimait que c'était une bonne mission. Donc, selon qu'on se situe d'un côté ou de l'autre, eh bien, l'interprétation change dans tous les cas. Je précise que toutes les opérations de maintien de la paix des Nations Unies n'ont toujours pas été couronnées de succès, parce qu'il y a eu souvent beaucoup d'insuffisances, des faiblesses, etc. Je pense que c'est quelque chose qui doit être révisé par les Nations Unies elles-mêmes. C'est comme l'organisation elle-même, hein, le Conseil de sécurité, le droit de veto qui appartient à 5 membres sur plus de 193 membres que compte les Nations Unies. Et encore, si les 5 pouvaient se mettre d'accord, ben, il suffit qu'une seule puissance permanente de ces 5-là dise non à un problème et tout le système des Nations Unies se trouve du coup trippé. Donc, il n'y a pas que les opérations de maintien de la paix, il y a aussi tous les autres organes de fonctionnement, n'est-ce pas, à réformer pour donner plus de démocratie à cette institution planétaire qui demeure malgré tout, en tout cas, une belle tribu pour les relations internationales.
Professeur Guessant Kouadio, nous vous disons merci.
Merci.
C'était à l'instant professeur Guessant Kouadio. Il est professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Fouette-Boigny de Cocody. Il répondait aux questions de Aoussi Potin dans le cadre de l'invité de la rédaction. Un entretien qui met un terme à cette édition. Le rappel des titres à présent. Un projet de loi de règlement 2022 en rapport avec la mobilisation et la gestion des ressources publiques a été soumis par le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, hier jeudi. Et puis, cérémonie de récompense des prix Ghislain Dupont et Claude Verlhone s'est tenue hier à Abidjan. Avant, la présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, a été reçue en audience par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui a souligné la nécessité pour les populations d'être informées selon elle. Et puis, le Burkina Faso rapatrie de la Côte d'Ivoire 14 stagiaires militaires. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour ce 12h. Tout de suite, la revue de presse pilotée par Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. La visite du chantier du 4e pont occupe une bonne place dans cette revue du jour. Sur ce sujet, le journal gouvernemental